Je vous laisse la préséance pour la première passe d'armes. Finit-il par composer. Pour la suite, les hasards du combat décideront. Le rire de Claudas résonna sous le ventail orfévrie. « Je me contenterai de cette faveur, » ironisa-t-il. « Ma foi, si je ne renverse pas Anaro, soyez sûr que je vous l'aurai attendri. » Il n'était plus temps de parler. Déjà les lourdes montures du dehors, brutalement éperonnées, ébrouaient leurs chanfreins et leurs barres d'acier. Les chevaliers du dedans piquèrent à leur tour, et dans un cœur de cris de guerre, les champions se dressèrent sur leurs étriers, les fesses calées sur le trousquin, tandis que les alliés de lance s'inclinaient l'un vers l'autre. Les conrois se heurtèrent en un front un peu fluctuant. Le choc craqua avec une violence d'avalanche, pétarade des hampes brisées, percussion des plates et des boucliers, secousse des chevaux bousculés et des corps renversés. La seconde ligne des écuyers et des sergents montés, en poussant sur les arrières, provoqua un ressac à peine moins brutal que l'impact initial. En un instant, le milieu du pré était devenu une mêlée étirée qui dressait une barrière mouvante de destriers enchevêtrés et de baroudeurs cuirassés. Dans un tourbillonnement de cimiers, de soieries, de crinières et de métal, on s'y frappait à coups de tronçons, d'épées, de boucliers et même de gantelets. Cette impétuosité déchaînée avait des mouvements de flux et de reflux, un roulis de tempête où la houle équestre se crêtait d'une écume de lames et d'emblèmes. Edan se trouva affronté au chevalier à la sirène. Le noble étranger le pointa en plein torse avec une certaine précision, mais peu de fermeté. Le sire de Vaumacel détourna sans grand mal cette estocade du bouclier. En retour, l'attaque qu'il porta fut autrement vigoureuse. Et raflant l'orle supérieur de l'écu, son fer de lance percuta le gorgerin de l'adversaire juste entre la bavière du haume et la spalière. L'armure du seigneur Kyudalien n'était pas seulement damasquinée de façon somptueuse, mais aussi d'une solidité remarquable. La pointe raya l'acier sans le percer, et la lance d'Edan rompit. Toutefois, la puissance de ce choc sur la clavicule déséquilibra le chevalier à la sirène. En arrivant à sa hauteur, le sire de Vaumacel redoubla son attaque d'un coup de tronçon qui lui fit vider les étriers.
« Même le cheval !» cria Edan.
Tout en lâchant le débris de son arme, il tirait sur les rênes de sa monture et s'apprêtait à porter la main à l'épée. De toute la hauteur de son destrier, il dominait l'ambassadeur Kyudalien qui avait chuté sur l'herbe piétinée parmi quelques fragments de hampe. Le chevalier à la sirène avait l'air étourdi et courait le risque d'être piétiné par les embardés des chevaux de bataille. Le sire de Vaumacel lui laissa un instant pour reprendre ses esprits avant de lui proposer de se rendre.
« Seigneur !» hurla soudain Nem. « Gardez-vous à gauche !»
Privé de vision latérale par son home, Edan sentit le péril fondre sur lui plus qu'il ne le vit. À l'instinct, il se couvrit du bouclier. Une énorme collision le percuta de plein fouet. Son écu vibra sous un impact, en même temps que l'Oriagor, son puissant destrier, était bousculé par la charge d'un autre cheval de guerre. Le temps d'empoigner l'épée, le preux subissait deux nouveaux coups de boutoir sur le bouclier. Ce ne fut qu'en armant sa riposte qu'il aperçut enfin l'assaillant, quasiment au corps à corps, un grand chevalier à l'armure vermeille.
« À moi, Vaumacel, qu'on en finisse !» aboya le connétable.
Le coup suivant ébrécha la bordure de l'écu d'Edan, pendant qu'Anaro de Traval parait du bouclier le coup de taille destiné à son casque. Revenu de sa surprise, le chevalier aux épines retrouva son sang-froid et tout son mordant. Mais les deux combattants, aussi chevronnés l'un que l'autre, ferraillaient avec la même violence réfléchie. Ils s'ébranlaient mutuellement sans obtenir le moindre avantage. Un nouveau retournement vint rompre l'équilibre de ce duel. Jailli du plus fort de l'engagement, un tiers s'en prit au connétable. Les chevaux courants de ses armoiries et l'hippogriffe qui sommait son home le rendaient identifiable entre tous.
« Laissez-le-moi, Vaumacel !»
rugit Claudas de Kimark.
« À nous deux, Traval !»
Edan ne l'entendit point de cette oreille, du moins dans un premier temps. Pendant quelques instants, le connétable fut pris en étau entre les champions du dedans. Sérieusement malmené, le chevalier vermeil ne céda pas un pouce de terrain, mais en appela à ses gens tout en continuant à rendre coup pour coup. Le cheval Joséphine choisit alors de s'en détourner, agissant de façon plus formelle que délibérée. Son intention était sans doute de s'interposer devant les renforts du dehors. Peut-être estimait-il indigne d'affronter le capitaine adverse à 2-1. Sans doute avait-il conscience que si le connétable était vaincu, il eût été difficile d'en disputer la capture au fils du comte. Si ces idées traversèrent son esprit, elles ne s'y attardèrent guère. Dans le tumulte de la mêlée, toute son attention était concentrée sur les dangers qui le cernaient et sur les opportunités à saisir. Laissant donc à Clodas le privilège d'affronter Anaro de Traval, Edan en revint au champion qu'il avait désarçonné. Couvert par un binôme de gens de pied, le chevalier à la sirène venait de se relever. Il lui était toutefois impossible de remonter en selle, Nem s'étant éclipsé vers l'arrière avec son destrier. Ses écuyers le protégeaient de leur corps en l'évacuant vers l'arrière. Voyant que cette prise risquait de lui échapper, le sire de Vaumacel éperonna dans leur direction. Le seigneur Tchoudalien se mit en garde, mais l'un de ses hommes s'interposa avec courage. Il portait une demi-armure et une barbute typique de l'équipement des phalanges républicaines. Toutefois, au lieu d'une longue pique, il empoignait une archegaie, lance courte beaucoup plus maniable dans un combat où les lignes étaient rompues. Le piéton était trapu mais peu impressionnant. Edan fit confiance à Lord Yagor pour le bousculer et s'apprêta à charger directement le chevalier Tchoudalien. Il dut très vite changer de pied et tirer les rênes. Au lieu de le menacer directement, le soudard avait fiché le talon de son arme en terre et tenté d'éventrer le cheval. Par chance, le fer n'avait qu'éraflé la barde de poitrail, mais outré par un coup si irrégulier, Edan a bâti son épée sur le crâne du goujat. Sa lame siffla dans les airs sans rien rencontrer. Vif comme un aspic, le méchant drôle s'était dérobé. Accroupi, pour ne pas dire tapi au sol, il serrait toujours son archegai à deux mains. Edan entrevit ses yeux sous la bordure du casque. Il surprit un regard aigu et froid, dépourvu de peur comme d'excitation. Bizarrement, le soudrille parut avoir l'attention accrochée par l'écu du chevalier. Mais il prenait déjà son élan pour un coup de pointe. Le sire de Vaumacel, qui craignait une nouvelle attaque contre le ventre de Loriagor, lui fit faire un écart. Cette initiative le sauva probablement. Car ce ne fut pas le destrier que le sicaire tchoudalien frappa. Le fer de lance glissa sous le bouclier et partit tout droit se ficher dans les plates articulées de la braconnière. Grâce au mouvement du cheval, seul le gambison fut déchiré. Mais sans le recul du coursier, ce coup bas, qui avait trouvé le défaut de l'armure, aurait traversé l'aine et les intestins. Le sire de Vaumacel frappa la lance pour la rompre, ou à tout le moins la dévier. Le tranchant de l'épée arracha un long copeau à la hampe jusqu'à heurter le poing qui la tenait. Sans son gantelet, le soudard aurait perdu quelques doigts. Il se dégagea avec une agilité féline, en secouant brièvement la main qui venait d'essuyer le choc. « Stronzo Sukakati !» grogna-t-il en se remettant en garde. Le chevalier aux épines connut une brève hésitation. Fallait-il mettre pied à terre pour étrier ce mauvais plaisant qui n'hésitait pas à s'en prendre au destrier? C'eût été lui faire trop d'honneur. Mais la scélératesse du procédé méritait d'être châtiée. Des clameurs montées des lignes arrières ajoutèrent à la confusion d'Edan, où se mêlaient des rugissements furieux et le cri « Trahison ! Trahison !» Un mouvement de cavalerie le sépara soudain du piéton et décida pour lui. Des champions du dehors. Et pourtant, ils passèrent devant le sire de Vaumacel sans le menacer. Ils se ruaient sur un accrochage voisin. Edan oublia son fourbe tchoudalien quand il réalisa que Clodas de Kimark était cerné. Au moins 4 combattants s'acharnaient sur le chevalier à l'hippogriffe. Pis encore, l'un d'entre eux avait pour armoirie une hure de sanglier défendue de gueules. Bruin de Bangarde s'attaquait au capitaine du dedans, au centre de la ligne de bataille. Comme il appartenait au conroi de Fitzganlon, cela laissait craindre que l'aile droite ne fût enfoncée. Sans balancer, le chevalier aux épines se porta au secours du seigneur de Kimark, tentant de bousculer Froisfer pour desserrer la nasse qui s'était refermée sur le capitaine du dedans. Quoique roué de coups, qui faisait grand tapage contre son écu et son armure, Clodas restait fermement en selle et allongeait régulièrement de brusques ripostes. « Laissez-moi vos macelles !» cria-t-il sans cesser de frapper. « J'en ai vu d'autres. Colmatez plutôt les brèches !» Comédane engageait malgré tout le chevalier de Bangarde, le seigneur de Timarque s'emporta, tout en sabrant le ventail du connétable.
« Corps de roi, vos macelles ! Aujourd'hui, je compte moins que la tour !»
Le bras gauche malmené par les contre-attaques de Froisfert, le chevalier aux épines se dressa sur ses étriers, juste pour essayer d'apprécier l'évolution des combats. Était-il judicieux de suivre les ordres du capitaine ? Le home rétrécissait le champ de vision des Danes, mais il était imprudent de relever le mésaille alors que les lames tourbillonnaient autour de lui. La plus complète confusion régnait dans le secteur défendu par Blancandin. L'aile droite continuait à résister, mais avait perdu la moitié de ses chevaliers. Les preux qui avaient échappé à la chute ou à la capture s'étaient réfugiés au milieu des guisarmes de leurs gens de pied. Cette ligne tenait encore en respect les champions et les ouromans de Fitzganlon à la lisière du verger. Mais des combats avaient éclaté plus loin, sous le couvert des arbres, là où continuait à retentir le cri de « Trahison !». La pluie et le blanchoiement des pommiers en fleurs empêchaient de distinguer ce qui s'y passait précisément. Une autre menace capta l'attention du sire de Vaumacelle. Deux chevaliers du conroi du connétable venaient d'accomplir une vraie prouesse, une percée qui pouvait être le tournant de la journée. Non seulement ils avaient traversé la double ligne des chevaliers et des écuyers du dedans, mais ils venaient de s'enfoncer dans les troupes de gens de pied, galopant droit vers le château. L'un d'entre eux, accroché par un vrai buisson de vouges et de guisarmes, finit par vider les étriers, mais l'autre se taillait une voix brutale au milieu de la presse des sergents. Pour ne pas s'empêtrer dans la ramée du verger, il remontait crânement le chemin où se concentrait pourtant une abondante piétaille. Son écu portait le cerf héliophore barré d'un lambel. L'Enval, le prince du Cal, était sur le point d'arracher la victoire pour le camp du dehors. Il n'en fallut pas plus au chevalier de Vaumacelle pour prendre son parti. Claudas avait raison. Il ne servait à rien de le défendre si Lindinas tombait sur un coup d'audace. Tout en continuant à se protéger des orions dont l'accablait Bruin de Bangarde, Edan entreprit de se dégager. Dès qu'il le put, il tourna bride et se précipita vers le château. Prenant cette volte-face pour une fuite, Froisfert le couvrit de sarcasme, mais ne le poursuivit pas. Il se rabattit sur le chevalier à l'hippogriffe, submergé par le nombre, dont le sort paraissait scellé. Sitôt sorti de la mêlée chevaleresque, le sire de Vaumacelle éperonna vigoureusement. Quelques foulées de l'Oriagor le ramenèrent à l'orée du verger, mais le prince Bromalois avait une avance difficile à combler. Il achevait de forcer le passage vers les portes du château qu'il était sur le point de franchir. De solides vougiers lui en interdisaient encore le seuil. Mais le grand chevalier brandissait l'épée comme à l'exercice, prêt à bousculer cette dernière défense. Surgit entre deux allées de pommiers, un cavalier intercepta cette charge. Il allongea un coup de hache pendant que son cheval heurtait l'épaule du destrier. Edan fut frappé par la robe pie de la jument avant même de reconnaître son écuyer. Le vieux Nem jouait son vatou pour arrêter le champion du Cal. Le sire de Vaumacelle éperonna son coursier au sang. Le valet d'armes possédait l'expérience d'un vétéran endurci, mais sa jument n'était qu'un ronçain incapable de faire le poids face au cheval de bataille du prince. Le duel risquait de tourner court. De fait, l'Enval avait dû entendre le galop sur son flanc, car il para sans peine le coup de hache, n'y laissant qu'un fragment d'écu. Le choc des deux chevaux déporta le destrier qui y perdit son élan. Mais la jument pie en sortit plus étourdie que le grand coursier, mettant Nem en délicate posture. L'Enval lui expédia un puissant coup de taille dans le dessein de le balayer de sa selle. Le vieil écuyer bloqua l'attaque et tenta de cueillir l'épée entre la lame et le manche de sa hache. Mais son adversaire parvint à dégager son arme. Le champion du Cal prit tout de suite la mesure des forces et faiblesses de ce gêneur. Plutôt que de ferrailler inutilement, il jeta son grand cheval contre la jument pie. Cette fois, la monture perdit l'équilibre et entraîna Nem dans sa chute. L'accrochage avait toutefois eu pour effet d'arrêter la charge de l'Enval juste au pied du château. Les sergents qui l'avaient rudoyé dans le verger accouraient en nombre sur ses talons, pendant que ceux qui gardaient la porte le menaçaient de leurs armes d'aste. En quelques instants, le prince du Cal se retrouva au centre d'un cercle de lances qui commença à se resserrer sur lui. Son casque tourna brièvement de droite et de gauche, comme s'il évaluait la nasse où il venait de se fourvoyer. Et puis, pointant l'épée dans l'attitude de la charge, il fit accomplir une pirouette à son destrier. L'énorme cheval de bataille opéra un tour complet sur lui-même, l'encolure un peu relevée comme s'il allait se cabrer. La housse du caparaçon et la longue manche de soie accrochée au haume du preux flottèrent telles des bannières en dispersant une spirale de gouttelettes. Le seul souffle de la voltige suffit à refroidir quelque peu l'ardeur des gens de pied. Lanval profita de ce flottement pour lancer soudain son cheval en avant. Toutefois, conscient du péril dans lequel il s'était jeté, il tourna le dos au château et entreprit de battre en retraite à travers la pommeraie. Sévèrement accroché au passage par les fers barbelés des guisarmes, il en brisa une ou deux de l'épée, il laissa de grands lambeaux de sa cotte d'armes, mais parvint à rester en selle et à se frayer une voie. Il s'extrayait à peine du taillis de lance quand le chevalier de Vaumacel courut à sa rencontre, l'arme haute. Les deux champions étaient sur le point d'en découdre, quand une éclaircie soudaine fit étinceler la pluie et miroiter le métal des armures. Dans cette lumière liquide, les couleurs des écus, des housses et des cottes chatoyèrent. Les longues manches de sandales, accrochées aux haumes des adversaires, resplendirent du même azur, mouchetées des mêmes étoiles arachnéennes. Cette découverte saisit les deux chevaliers, qui, de stupéfaction, restèrent en garde haute, sans frapper ces couleurs qu'ils défendaient.
« Que signifie ceci ?»
demanda Lanval en désignant l'emblème des Danes de la pointe de l'épée.
« Je vous renvoie la question, monseigneur, »
rétorqua le chevalier aux épines.
« Cela ne ressemble point à la manche de ma marâtre. Et vous, d'où tenez-vous ces couleurs ? Elles ne sont point du duché. Je les tiens d'une dame qui ne saurait vous les avoir données. Voir. Reste que l'une de ces manches est de trop. Vous allez m'en rendre raison, Vaumacel !»
Ce bref échange suffit au sergent du dedans pour se reprendre et menacer le prince ducal.
« Je brûle de m'en expliquer avec vous, » répondit Edan. « Mais laissons cette piétaille hors du débat. »
Libérant la voie à Lanval, il ajouta « Ménageons-nous l'occasion de guerroyer seul à seul. » Le champion bromalois piqua des deux et frôla le sire de Vaumacel sans le frapper.
« Je reviens avec mes gens pour occuper les vôtres !» cria-t-il au passage. « Gardez-vous jusqu'à mon retour !»
Les gens de pied rugirent de dépit en voyant qu'Edan laissait le fils du duc leur échapper. Ignorant leur colère, le chevalier se hâta de remonter jusqu'au château. À son grand soulagement, il constata que Nem et sa monture s'étaient relevés. Le vieil écuyer boitillait et peinait à rassurer sa jument qui se dérobait devant lui, mais ni l'un ni l'autre ne paraissait gravement touché. Le chevalier aux épines s'arrêta auprès d'eux et chercha à mieux voir ce qui se passait dans le verger, là où il avait entendu crier à la trahison. Un combat se livrait entre Jean de Pied sous la ramée, dans le dos de l'aile droite et non loin du rempart, mais il était difficile de distinguer les forces en présence, car il n'y avait là personne qui ressemblait aux soudoyers ou romans.
« Quel est ce désordre ?» s'enquit Edan. « Le chevalier de l'eau du nez et ses gens se sont retournés contre nous, »
répondit Nem en renonçant momentanément à attraper la bride de sa jument.
« Ils attaquent l'arrière du conroi de Blancandin. »
Le chevalier fit signe à son valet d'armes de reprendre au plus vite sa monture. Il fallait agir au plus tôt. Mais quel parti prendre ? Charger l'eau du nez et ses sergents pouvait soulager l'aile droite, susceptible de s'effondrer d'un instant à l'autre sous la poussée du grand bâtard et de ses mercenaires. Mais il faudrait pour cela s'écarter de la porte du château. Or, Lanval de Bromel allait revenir, et le centre s'écroulerait probablement dès que Claudas serait pris. Peut-être l'était-il déjà. Edan le chercha des yeux au cœur de la mêlée, s'attendant à ce que le capitaine fût déjà à terre ou emporté vers les lignes du dehors. Sa stupéfaction fut grande de le découvrir toujours en selle et toujours cerné par quatre champions qui s'acharnaient sur lui. Son bouclier était en morceaux, son épée ébréchée, son cimier arraché, son armure percée et bosselée. Et pourtant, le fils du comte ne pliait pas, mais s'entêtait à frapper le connétable. L'honneur commandait d'épauler pareille vaillance. S'il était secouru, Claudas pouvait encore échapper à la capture et sauver le centre.
« Tenez la porte du château !»
ordonna Edan aux gens de pied avant d'éperonner en direction de la mêlée chevaleresque. en replongeant au cœur des combats, le chevalier de Vaumacel fut reconnu par les écuyers et les sergents des seigneurs du dehors qui pressaient Claudas. Aussitôt pris à partie, il dut en découdre avec des cavaliers qui l'attaquaient l'âme haute et des gens de pied qui s'efforçaient d'accrocher son harnois. Malgré la puissance de l'Oriagor, il était difficile de se frayer une voie au milieu de cette presse. Et Edan peinait à rejoindre son capitaine. Envers et contre tout, celui-ci restait ferme sous un déluge de coups dont la violence et le nombre en eussent tué plus d'un. Véritable foudre de guerre, le seigneur de Kimark cognait un haro de Traval sans désemparer. Le connétable, dont il avait fendu le bouclier, paraissait d'ailleurs étourdi comme s'il commençait à perdre pied. Venu de l'aile gauche du dehors, un cri porta jusqu'aux combattants du centre. Alors qu'il affrontait toujours le chevalier au coucou dans un duel qui tenait plus de la voltige équestre que de l'escrime, le chevalier au jet s'était dressé sur ses étriers. D'une voix claire, il apostrophait le connétable et ses compagnons.
« Gare à vous, seigneur! C'est un beau tricheur! Un sortilège d'émoussement le met à couvert des armes de fer !»
Les chevaliers du dehors parurent d'abord ne pas avoir entendu cet avertissement et s'obstinèrent à férir sans résultat. Puis, comme pris d'une inspiration, Bruin de Bangarde poussa son cheval flanc à flanc avec celui de Claudas et envoya un grand coup de bouclier à son adversaire. Pour la première fois, le capitaine du dedans accusa un peu le choc. Ce signe de faiblesse ne passa pas inaperçu. Gardant désormais l'épée le long de la cuisse, ses quatre assaillants se bousculèrent pour le frapper de leurs écus. Le chevalier aux épines les avait presque rejoints et s'apprêtait à engager Froisse-Fer par-dessus les casques de deux sergents quand un tumulte terrible éclata sur un côté de la bataille. L'aile droite était enfoncée. De maigres grappes de gens de pied résistaient encore autour de quelques chevaliers du dedans, mais le front venait de rompre. Avec des rugissements triomphaux, la masse des mercenaires aux romans s'engouffrait par plusieurs brèches sous la ramée du verger. Quant à Claudas, cogné du plat et de la tranche de quatre boucliers, il vacillait à présent sur sa selle. Dans un dernier sursaut, il se redressa encore de toute sa taille et aboya sur un ton rageur « À moi ! À moi le jeu du pape gay !» Sur le moment, ni Edan ni les quatre preux du dehors n'entendirent le sens de ses paroles. Froisse-Fer venait d'agripper le bouclier percé du capitaine et le déséquilibrait en tirant sur sa guiche. Au même moment, un sergent d'armes accrochait le mort de son destrier pendant que le connétable lui intimait l'ordre de se rendre. Mais le fils du comte, au bord de la chute, ne leur concéda qu'un rire sarcastique. Au milieu du vacarme, la huchée d'un corps lui répondit de l'arrière-garde du dedans avant d'être reprise en écho sur l'enceinte du château. Ce ne fut qu'en entendant ces sonneries que le sire de Vaumacel saisit l'intention de Claudas de Kimark.
« Non ! Non ! »
s'écria-t-il, et d'ajouter précipitamment
« Couvrez-vous, mes seigneurs !»
Mais personne ne comprit sa mise en garde. Certainement pas les forces du dehors qui le traitaient en ennemi. Aussi, la première salve de traits d'arbalète prit-elle tout le monde au dépourvu, hormis Edan qui avait dressé son écu. Ce fut à peine si l'on entrevit les projectiles s'abattre. Le destrier d'Anaro de Traval se cabra, un empennage grisâtre fiché dans l'épaule. Bruin de Bangarde se mit à jurer, une cuisse clouée sur la selle. D'autres cris de douleur ou de rage s'élevèrent de façon clairsemée dans la mêlée, et surtout du côté de l'assaut roman. Mais ce coup traître ne suffit pas à dégager Claudas. L'affolement du cheval du connétable ne fit que le bousculer un peu plus, et de colère, les champions du dehors rossèrent de plus belle le capitaine du dedans. Celui-ci finit par vider les étriers sans qu'Edan pût lui porter secours. Déjà, Lanval de Bromel revenait à la charge à la tête d'un petit groupe d'écuyers et de chevaliers, parmi lesquels le sire de Vaumacel crut reconnaître les armoiries d'Herluin le Jeune. Même si les chevaliers de la vallée de la Claye résistaient toujours à ceux de Bellestance sur l'aile gauche, le centre du pré était perdu. Edan joignit sa voix à ceux de ses compagnons d'armes qui criaient de se replier sur le verger et le chemin d'accès au château. La confusion provoquée par les tirs et l'attroupement qui se pressa autour de Claudas capturé permirent au sire de Vaumacel de s'extraire de la mêlée plus facilement qu'il ne le craignait. Toutefois, à peine avait-il gagné la lisière de la pommeraie, il se trouva rattrapé par les assaillants et dut combattre de plus belle.
S'il voulait rester en selle, il ne pouvait s'écarter du chemin. Mais tout en s'accrochant au terrain, il voyait que le sous-bois était devenu le théâtre d'une mêlée générale. D'un instant à l'autre, il risquait de se trouver encerclé. En se servant de l'oriagor comme d'un bélier, le sire de Vaumacelle parvint à refouler des gens de pied du dehors à plusieurs reprises. Une nouvelle salve de traits en coucha certains et lui donna un fragile répit. Mais la calmie ne dura qu'un instant. L'enval de Bromel revenait déjà à la charge avec plusieurs preux adverses. Comme 10 ans plus tôt, au cours du siège de Mortemarck, le chevalier aux épines rallia une poignée de sergents du comté pour soutenir l'assaut. C'était toutefois une chose de tenir une brèche étroite au sommet d'un éboulis de gravats. C'en était une autre de défendre l'accès à un chemin quand la ligne de front avait cédé. L'enval se précipita de toute la puissance de son destrier contre Edan. Le chevalier de Vaumacelle sentit l'oriagor broncher sous le choc et eut la plus grande peine à conserver son assiette. Autour de lui, les piétons cuirassés maintenaient bravement leurs lances dardées, mais risquaient à tout moment d'être débordés sur les flancs.
« Repli !» clama le chevalier. « En bon ordre ! À la poterne !»
Impossible de décrocher en courant. La pression des gendarmes du dehors était trop forte. Leur tourner le dos se fut soldé par une déroute. Alors Edan et ses compagnons de hasard cédèrent du terrain pied à pied, en rendant coup pour coup. Harcelé par le prince ducal, le sire de Vaumacelle avait du mal à évaluer la situation. Mais les rugissements gutturaux qui enflaient sous la ramée lui faisaient augurer le pire. Sur sa droite, les Ouromans contrôlaient une bonne partie du verger et avaient déjà atteint le pied des murailles. Seuls quelques rescapés du conroi de Blancandin barraient encore les abords du chemin. Si ce rideau défensif cédait, la retraite du centre serait balayée avant d'avoir touché au mur. Une troisième salve de traits ne fit guère de dégâts. Faute de distinguer leur cible sous les arbres en fleurs, les arbalétriers de Timarc tiraient désormais au jugé. «
Cessez le tir ! Cessez le tir !»
s'égosillait-on dans les deux camps. Le chevalier de Vaumacelle venait de repousser un nouvel assaut de l'enval et tâchait de profiter de ce fragile avantage pour reculer de quelques pas quand il fut harponné par plusieurs sergents du dehors. Les crochets de 3 guisarmes venaient de mordre le bord de son écu, les ailettes de sa spalière et l'aileron de sa genouillère. Les gens de pied tirèrent sur les manches de leurs armes en s'arc-boutant. Ainsi tracté, Edan faillit vider les étriers et ne parvint à rester en selle qu'en s'accrochant à l'arçon. L'oriagor lui-même fit un écart, happé par le halage de l'ennemi. Déséquilibré, Edan avait baissé la garde. La piétaille du dehors hurla de joie et d'autres vouges tentèrent de l'agripper. Le chevalier aux épines ne dut son salut qu'à l'intervention d'un soudard du dedans. Ce drôle-là ne payait pas de mine. Casqué d'une cervelière rouillée et mal protégé par un pourpoint de cuir, il n'empoignait même pas une des longues armes d'Ast qui permettaient à ces gaillards d'inquiéter des cavaliers. Il se jeta au milieu du faisceau de lance entre le flanc du destrier et les sergents adverses et balança une hache d'armes. Il la maniait à merveille. En un instant, 2 des hampes étaient rompues. Et Edan parvint à se libérer du 3e fer. Le chevalier fit mine de charger cette piétaille insolente sur quelques pas, l'épée haute. Puis, battit prudemment en retraite son sauveur accroché à l'étrier.
« Merci, l'ami !» lui cria-t-il. « Je te dois une fière chandelle !»«
Je n'en ai pas autant à ton service, l'épineux !»
rétorqua un timbre narquois.
« Non, mais quel traquenard !»
Ces paroles firent mauvaise impression aux chevaliers, pas seulement en raison de leur impertinence, mais le sire de Vaumacelle n'eut pas le loisir d'interroger son sentiment, car l'enval et ses gens revenaient déjà à la charge. Il fallut encore contenir 3 assauts, tout en se retirant en bon ordre avant d'arriver dans l'ombre du château. Le soudard à la hache se montrait précieux pour rompre ou dévier des piques, souvent au risque de se faire embrocher. Mais Edan trouvait inconvenante la grossièreté des injures qu'il crachait au visage de l'adversaire. En arrivant aux portes de la place forte, la bande du sire de Vaumacelle fit la jonction avec les débris de l'aile droite qui avait couvert son flanc dans le verger. Il ne restait qu'une 10aine de sergents d'armes, commandés par un Fitzurse du Havre, cabossé du haut Mossolleret, mais plus batailleur que jamais. Edan eut aussi le soulagement de retrouver Nem,
et la joie d'y découvrir Ivorin de Kéan avec son écuyer Bribras. Face à eux, les gens de guerre de Lanval et les Ouromans de Fitzganlon unirent également leurs forces, et les rescapés du dedans serrèrent les rangs devant la cohue du dehors. Toutefois, le goulet d'étranglement des portes s'avérait plus facile à défendre qu'un espace ouvert. Quoique périlleuse à tenir, la position n'était pas désespérée. Les défenseurs parèrent au plus pressé. Chevaliers et écuyers mirent pied à terre et firent mener leurs chevaux à l'intérieur. Ils prirent position sur le seuil, couverts de leurs écus. Les sergents se rangèrent juste derrière eux en pointant leurs longues armes d'aste entre les haumes des preux. Cette escouade hérissée prêta à réfléchir à l'assaillant, ce qui offrit à tous les combattants un bref moment de trêve. Spontanément, Fitzurse et Edan tombèrent d'accord pour donner l'ordre aux arbalétriers de cesser les tirs. Si le connétable décidait d'envoyer son archerie répliquer à ses volées de carreaux, les gardiens du portail tomberaient percés de traits avant même d'être engagés au contact. Sans baisser la garde, les combattants du dedans reprirent un peu leur souffle et échangèrent des nouvelles.
« Hélas, monseigneur Blancandin a été repris !» se désola le chevalier du Havne. « La deuxième fois, je n'ai rien pu faire pour le délivrer, et ce ronchon de Maubrenas a été blessé. » Il a essayé de s'échapper, mais j'ignore s'il a réussi à regagner le camp.
Monseigneur de Kimark a également été capturé, annonça Edan. Il s'est montré imprudent et a été encerclé. Quant à vos fiers amis les aventureux, ils nous ont laissé choir, grommela Fitzurse. Je les ai vus quitter le pré tous ensemble en direction de l'étang. J'ai l'impression que la petite giboulée de Donden n'a pas été leur goût.
À moins qu'il n'ait eu envie de se détendre et de se rafraîchir, déplora le sire de Vaumacel.
Ils peuvent se montrer très désinvoltes.
Le sire du Havne partit d'un éclat de rire qui sonna bizarrement sous le mésaille.
La belle affaire où nous nous sommes fourrés, se réjouit-il. Nous avons perdu nos capitaines. Nos alliés sont partis grignoter une collation. Et nous voici, trois chevaliers de Bromel en délicatesse avec nos suzerains, en train de défendre un château du Kimark contre l'armée du Cal.
Vous ne rendez pas grâce à Sir Gérion, objecta le chevalier aux épines. Avec ses preux, il soutient toujours l'assaut du conroi de Belestance.
Grand bien lui fasse, ricana Fitzurse. Il a sans doute raison de préférer deux arpents de prairie à la bannière qu'il faut défendre.
De toute façon, nous sommes assez nombreux pour tenir cette porte. Fanfaronna Ivorin. La place aurait manqué pour Sir Gérion et ses compagnons.
Voilà qui est bien dit,
approuva le chevalier du Havne.
À nous toute la gloire de ce pas d'armes.
Son ventail tourné vers le sire de Vaumacel, il ajouta sur un ton grinçant.
Quelle que soit l'issue de la journée, cela fera du bruit dans les cours. L'amant malheureux et l'amant compromettant au coude à coude pour défendre l'honneur de la duchesse. On ne manquera pas d'en faire des chansons.
Puis, faisant teinter son haume à coups de gantelet, il conclut avec humour «
Quand je le reverrai, Ganelon va drôlement me sonner les cloches. »
Ils n'eurent guère le loisir de bavarder davantage, car les troupes du dehors se préparaient à donner l'assaut. Pour conquérir ce verrou défensif, les chevaliers adverses avaient également mis pied à terre. La première ligne comptait le connétable, Fitzganlon, Herluin le Jeune, l'orgueilleux de Contremont et Bérard d'Estrif, tout hérissé des fers de lance du second rang de gens de pied, prêts à pousser ce front puissamment cuirassé. On s'abstint de lancer des défis de part et d'autre. Le pas d'armes de l'immortel allait se jouer sur ce seuil et il n'était nul besoin d'échanger des politesses pour sonder la résolution des adversaires. Au milieu des cliquetis et des piétinements, il y eut presque un instant de silence. Puis, en levant l'épée avec calme, Anaro de Traval déclara «
Terminons-en !»
Les troupes du dehors se mirent posément en marche, couvertes par les écus du premier rang. Alors que les défenseurs faisaient front, prêts à encaisser le choc, les chevaliers de Kéan et de Vaumacel sentirent du remous derrière eux. Jusqu'à ce qu'un sergent d'armes vint se faufiler entre eux en les repoussant légèrement de l'épaule. Edan reconnut la casaque de cuir et la cervelière rouillée du gaillard qu'il avait tiré d'affaire un peu plus tôt. Il en vit mieux le visage qu'il n'avait pu le faire du haut de son cheval.
une trogne ravinée et barbue, plissée par les rides d'une malice assez louche. Il lui trouva quelque chose de vaguement familier et de très déplaisant, mais ne comprit à qui il avait affaire qu'en découvrant son collier de dents de chien.
« Eh oui, l'épineux !»
marmonna le molosse douchin.
« Finalement, tu as réussi à m'appâter et me voici. Mort de ma vie, j'aurais mieux fait d'aller me reprendre. Mais avant ça, il faut que je m'explique avec le bâtard. »
Les fers des lances se croisaient déjà. Les combattants se toisèrent dans le blanc des yeux par les lumières des visières. Et puis les deux troupes s'écrasèrent l'une contre l'autre. Il y avait une telle presse pour se disputer un portail large de 12 pieds qu'il était impossible d'en découdre selon les règles. On poussait en masse de tout le poids aggloméré des corps et des armures dans un chahut de haans, de jurons et de grognements. Les lames barbelées des guisarmes cisaillaient l'espace, crissaient sur les plates et les écus, faussaient les haumes. Incapables d'armer leurs coups, portés en avant par la pesée de leurs gens de pied et à demi étriés par les hastes adverses, les preux des premiers rangs dardaient des estocades en garde haute, dans des tentatives entrecroisées d'aveuglement. Ce déchaînement des forces figea un moment dans un lent roulis de foule, sans qu'aucun avantage ne se dessinât. Et puis soudain, Fitzganlon poussa un rugissement de douleur et de rage. Il luttait, bouclier à bouclier, contre le chevalier de Kéan, et n'avait pas prêté attention au bougre, à moitié écrasé entre les carrures cuirassées d'Ivorin et d'Edane. Sans doute ne se souvenait-il plus de l'écuyer qu'il avait jadis fait brancher. Ou bien n'y voyait-il pas très clair sous son ventail au milieu de cet étouffoir. En tout cas, nul ne vit le coup bas qui l'avait fait sacrer. Et pour cause. Dans l'entretoisement dense des lances et des lames d'épée, le molosse douchin eût été bien incapable de balancer sa hache. Mais le drôle avait de la pratique, et à défaut de pouvoir cogner, il savait aussi clouer. Il avait frappé de haut en bas avec le talon de son arme, qui était prolongé d'une méchante pointe de métal, et un peu au jugé, en avait poinçonné un seul ray du seigneur douchin.
« Hé, Cornio ! Ricana-t-il. « 10 ans que je te casse les pieds, tu ne me remets pas ?»
Mais l'autre méprisait ce gueux et continuait de peser contre son rival. Alors, un peu froissé peut-être, le forban lui allongea un autre coup de crampon dans les grèves, tout en lâchant un aboiement féroce.
« Allez, bâtard » gronda-t-il. « Viens donc te frotter à un chien de vieille race !»
Fitzganlon comprit enfin à qui il avait affaire. Il tourna le museau cabossé de son homme vers le maraudeur, et soudain, dans un sursaut phénoménal, bouscula la cohue qui le pressait pour frapper ce vieil ennemi. Le molosse fut à un cheveu de payer son insolence de la vie, car le grand bâtard réussit à brandir l'épée en repoussant plusieurs lances et le sabra en pleine tête. Dans l'impossibilité d'esquiver, le maître brigand ne put qu'amortir le coup du manche de son arme, mais l'impact imprima une trace brillante sur son casque rouillé. L'impulsivité de cet assaut se retourna toutefois contre Fitzganlon. Sa bourrade, avec des forces décuplées par l'accès de colère, avait brinqueballé ses voisins. Quant à lui, blessé au pied et emporté par l'élan, il se trouvait au bord du déséquilibre. Instinctivement, Ivorin sentit l'ouverture et lui envoya un nouveau coup de bouclier qui le fit culbuter dans le premier rang du dehors. La bousculade se communiqua au preux de la première ligne. D'un seul élan, les chevaliers du dedans saisirent l'occasion, et leur assaut redoubla de vigueur. Sans réellement céder, le front reflua légèrement. Repoussés en arrière, les gens de pied du connétable relevèrent légèrement leurs guisarmes. L'air devint moins tranchant. Les gendarmes retrouvèrent quelques libertés d'action, et les coups se remirent à pleuvoir. Un fragile avantage se dessinait néanmoins pour les défenseurs, qui regagnaient un peu de terrain. Le chevalier de Vaumacel n'en avait pas moins affaire à forte partie, car il croisait le fer avec l'enval et le connétable. Pour l'essentiel, il entrechoquait son écu contre les leurs, parant au mieux les coups qui franchissaient cette triple barrière. Menacés sur leur flanc par la poussée de Fitzurs et celle d'Ivorin, les deux champions ducaux reculaient malgré tout pour ne pas se retrouver isolés. Dans ce corps à corps tapageur, un assaillant parvint soudain à se glisser entre les boucliers des sires de Kéan et de Vomacel. Eddan entrevit la demi-armure tchoudalienne du Soudar qui avait défendu l'ambassadeur de la République et lui décocha au passage un coup de la garde de son épée. Lancé par réflexe, le Orion avait un peu manqué de puissance, mais le quillon heurta bruyamment la barbute et cela fut suffisant pour estourbir l'audacieux. Eddan s'arc-bouta pour résister au battage de ses deux adversaires et parvint encore à regagner quelques pas. Parce que son aume le privait d'une grande partie de son champ de vision, il ne sentit que trop tard le péril qui fondait sur lui. Alors qu'il venait de repousser un coup de taille qui menaçait sa tête, il devina, plus qu'il ne vit, une présence qui se redressait en souplesse contre son flanc droit. Une poigne ferme lui saisit le bras juste sous le coude, l'empêchant de changer de garde. Eddan eut le temps de comprendre que le spadassin tchoudalien n'avait nullement été assommé. Et puis on le poignarda sous l'aisselle, au défaut de l'armure, avec une dague à lame diamantée. Ce fut une estocade rapide, précise, qui faisait fi de la courtoisie et visait à tuer. L'acier transperça le haubergeon et la chemise, puis perfora les chairs, les côtes et le poumon. Fiché profondément dans le corps, ce saignoir-là cherchait le cœur. Celui qui le maniait n'avait que faire des hauts faits, des rançons, des couleurs et de l'honneur des dames. Rien de noble dans sa résolution. Il frappa avec l'efficacité froide de l'assassin.
À suivre dans le deuxième livre, Le Conte de l'Assassin. Vous venez d'écouter Récit du Vieux Royaume, Le Chevalier aux Épines. Livre 1, Le Tournoi des Preux, de Jean-Philippe Jaworski, lu par Jean-Christophe Lebert. Une production Audible Studio.